Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. On sait tous et toutes que nos enfants sont intelligents. On a entendu parler du fait qu'il se passait plein de choses avant 5 ans. Mais en fait, on n'est pas vraiment capable de dire quoi précisément. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nawal Aboub, qui est une scientifique, qui est une docteure en neurosciences, docteure en sciences cognitives en fait plus précisément, qui donne également des cours à Normal Sup et qui est l'autrice d'un bouquin que j'ai trouvé génial qui s'appelle « La puissance des bébés ». Et avec Nawal, on va parler de tout ce qui se passe dans le cerveau pour le bébé du coup, quand il est encore à l'intérieur du ventre de sa maman. Et puis, dans ses 5 premières années, on va parfois débunker quand c'est nécessaire, mais on va surtout parler du langage parce que c'est la grande spécialité de Nawal. Et Nawal, là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle ne fait pas que des sciences et parler des choses, elle met en pratique aussi dans l'associatif, elle met en pratique avec des parents pour voir concrètement comment ça se passe. Je vous laisse écouter cette conversation qui, je suis sûr, va vous intéresser. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Nawal.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Ben ça va très bien, je serais contente d'être là.
Et ben moi aussi. On va parler de la puissance des bébés. Et je voudrais peut-être comprendre d'abord pourquoi avoir fait un bouquin qui s'appelle « La puissance des bébés ».
Parce que la plupart du temps, quand on parle des bébés, on parle de leur immaturité, de leur incapacité. Et moi, j'avais envie de parler de un peu l'arbre qui cache la forêt, de finalement leur grande puissance pour apprendre des choses très complexes, très très vite.
C'est quoi la chose peut-être la plus surprenante que tu as appris sur leur cerveau? C'est pas commun, d'ailleurs tu l'expliques dans le bouquin, que c'est pas commun d'avoir fait des études de neurosciences sur les bébés, parce qu'il faut quand même leur mettre un casque sur la tête, l'air de rien. Il faut que les parents acceptent, par ailleurs. C'est quoi la chose la plus surprenante que tu as appris?
À quel point les parents, ils nous faisaient confiance pour faire des expériences sur des tout-petits. Parce que quand on vient d'accoucher et qu'on donne son bébé de 2 jours de vie à une doctorante qui parfois hésite sur ses gestes ou même sur les explications, je me dis vraiment, ça a été une des choses les plus surprenantes. Je ne m'attendais pas à autant d'un accueil aussi bienveillant des parents. Et puis l'autre chose vraiment où j'ai trouvé ça juste incroyable, c'est quand j'ai vu les premiers résultats de mes recherches. Je pense que quand j'ai commencé à tester des nouveau-nés et que j'ai vu les résultats, je me disais, ah mais en fait, il se passe vraiment quelque chose.
Et ouais, c'est fou parce que moi, j'ai appris des tonnes de choses. Et en particulier, un des premiers trucs qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait que le fœtus dans le ventre, il entend, il se passe vraiment des choses. Tu peux nous parler de l'évolution du cerveau du fœtus jusqu'à la naissance?
Bah comme tu le dis, en fait, les études sur le fœtus, elles sont très très rares parce que c'est extrêmement difficile d'accéder au cerveau d'un bébé qui est encore dans le ventre de sa maman. Et on a eu des chercheurs fabuleux, notamment français, qui dans les années 70-80 ont beaucoup exploré cette question. Et au départ, ils ont beaucoup exploré l'audition. Et c'est là où ils se sont rendus compte que les bébés, finalement, entendaient déjà pas mal de choses en fait dans le ventre de la maman. Pas n'importe quoi. Ils entendaient tout ce qui était la musique de la parole. Et on voyait qu'il réagissait, en plus de la musique de la parole, aux voix familières. Donc quand c'était la voix de la maman, on voyait que le fœtus, son rythme cardiaque s'accélérait par exemple. Donc c'est comme ça au début qu'on a commencé à étudier les compétences des fœtus. Et puis là, ces dernières années, on a vu un boom très important de ces recherches, parce qu'on a eu d'autres méthodes en fait, qui nous ont permis de voir en ultrasons, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que par exemple, même les fœtus voyaient dans le ventre de la maman.
Ah oui.
Ouais, la vision, contrairement à ce qu'on imagine, elle commence déjà in utero. Et de temps en temps, ils ouvrent les yeux et ils sont réceptifs en fait, à des signaux lumineux déjà très très tôt.
C'est fou. Alors, la question que je me suis posée, mais que je ne crois pas que tu traites dans ton livre, c'est... En fait, j'ai l'impression que ça pourrait être utilisé par les personnes qui sont anti-avortement. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question-là, mais à partir du moment où tu dis, en fait, un fœtus, il entend, il voit, etc. En fait, il a un cerveau, il réfléchit, enfin, il se passe quelque chose. Est-ce que ça va à l'encontre, pour toi, de toute la défense de l'avortement?
Alors, les recherches dont je viens de te parler, toutes ces choses, on les a découvertes, c'est des choses qui apparaissent au cours du deuxième et troisième trimestre.
Donc
déjà, beaucoup plus tardivement au départ, le système nerveux, ça reste un système nerveux qui, évidemment, hein, qui a une fonctionnalité, qui se développe, mais on n'en est pas au point de voir, d'entendre la voix de sa mère quand on est encore à 9 semaines de conception. Donc du coup, ça, je pense que c'est aussi pour ça que les règles sur l'avortement ont été fixées à une certaine date.
Date. Une autre chose qui m'a marqué, c'est le rôle de l'alcool. Et aussi de la dépression de la mère potentiellement. Tu peux nous expliquer comment ça peut avoir des impacts sur l'enfant une fois qu'il est né ?
Alors ça, c'est des sujets qui sont très complexes à aborder et aussi très tabous. C'est aussi pour ça qu'on les a eus très finalement tardivement. Même encore, hein, le sujet de l'alcool in utero, ça reste toujours un débat. Ça reste toujours, même si on sait que c'est interdit, on sait que ça existe. Voilà. Et ce qu'on a appris ces dernières années, c'est à quel point l'alcool a un impact beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Alors, il y a un syndrome qui est connu qui s'appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, où ce sont des enfants qui ont des malformations physiques. Ils vont avoir, par exemple, les mains palmées. Ils vont avoir, par exemple, des muscles qui vont manquer. Et ils vont aussi avoir des retards mentaux. Mais c'est un spectre. Donc, ça veut dire qu'en fonction de la sévérité et du degré d'alcoolisation auquel ils ont été exposés in utero, ce sont des enfants qui vont avoir plus ou moins certains troubles. Et comme, en fait, actuellement, on ne sait toujours pas les fenêtres un peu temporelles qui nous disent « là, il faut boire, là, il ne faut pas boire », donc on dit à toutes les mamans « ne buvez pas pendant la grossesse », parce que chaque période peut être importante. Voilà, ça, c'est une chose qu'on a appris sur l'alcoolisation. Et sur la dépression, ça aussi, c'est très intéressant. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure prise en charge de ces mamans qui vivent des grossesses dans des contextes psychiques particuliers. Et donc, on a vu qu'il y a des recherches qui ont montré que quand elles sont sous antidépresseurs, ça a des effets, notamment sur ce que nous, on appelle les périodes sensibles dans le développement du langage. On voit que ce sont des enfants qui, parfois, ont encore des perceptions très universelles de la parole. Ça veut dire qu'ils se spécialisent un peu plus tard. Peut-être on rentrera dans les détails un peu plus ça peut-être plus tard, mais ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose sur l'apprentissage, il se passe quelque chose au niveau de leur biologie et de la maturation de leur cerveau. Et ça, c'est des résultats, je crois que les premières recherches là-dessus, ça date de 2015, donc c'est hyper récent. Et je pense que ça, c'est des sujets qu'on va de plus en plus traiter pour dire à quel point c'est important.
Mais du coup, la dépression de la maman ne génère pas nécessairement une dépression de l'enfant?
Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, on sait que les enfants qui vivent dans des contextes où ils ont eu des parents qui ont vécu, que ce soit des phénomènes de dépression ou qui peuvent avoir des maladies psychiatriques comme la bipolarité, etc., il y a à la fois un caractère un peu de prédisposition, c'est-à-dire ça va être des enfants qui vont être plus vulnérables, plus fragiles, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le développer nécessairement. Mmh. Ça veut dire que cette prédisposition, elle est là. Et si on met un environnement, si cette maman, elle est accompagnée, si ses parents, ils sont accompagnés, si l'enfant aussi, il y a probablement beaucoup de chances que cet enfant ne développe pas. Mais par contre, si c'est des enfants qui, à la fois, cumulent un environnement familial compliqué, une vie compliquée, une école, enfin, une non-prise en charge de tout ça, ce sont des enfants qui sont plus à risque. Et on sait que ce sont des enfants qui vont développer des troubles plus dépressifs. Ce sont des enfants on va avoir des prévalences. Donc, on va avoir plus d'enfants qui vont présenter ces troubles-là, par exemple. Et ça, c'est des choses dont on ne prend pas assez conscience. Par rapport à ça dans nos politiques publiques.
Et alors, des trois questions que je t'ai posées, que ce soit l'alcool, la dépression, c'est les deux d'ailleurs, je me dis, ça met quand même beaucoup de pression sur les mamans, nécessairement. Est-ce que c'est noir ou blanc parce que tu disais, il y a des spectres, mais moi j'avais entendu dire, il vaut mieux une maman qui boit un verre de temps à autre, plutôt qu'une maman qui soit complètement stressée, ou pareil pour les cigarettes. Est-ce qu'il y a une notion de quantité? J'imagine que oui, quand même.
Comme je te l'ai dit juste avant, par exemple pour l'alcool, on sait qu'effectivement, plus les bébés sont exposés in utero à l'alcool, plus on va avoir un degré important de ces choses-là. En fait, c'est vrai, mais ce que je pense, c'est que le fait de pouvoir maintenant savoir ça, c'est, moi, à mes yeux, c'est justement ça qui va aussi nous permettre de mieux aider ces mamans, enfin, ces parents qui sont parfois dans des difficultés. Et parfois, on était dans des générations où je pense que, voilà, il y a des, nos parents, ils ont fumé. Je pense qu'il y a plein de mamans qui fumaient. Et à l'époque, on ne savait pas ce que ça faisait le tabac sur le cerveau de l'enfant. Mmh. On savait que ça faisait des bébés plus petits, mais c'était tout ce qu'on savait. Et puis, l'alcool, c'était, oh, bah, c'est pas grave, hein, tu peux aussi. Et puis, finalement, maintenant, on sait aussi ça. Ça aide les mamans à se sentir. Enfin, toutes les mamans, dans, en général, se, font très attention à savoir qu'est-ce qui va faire du mal à leur bébé. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des choses aussi, on va les aider. On va leur dire, bah, regardez, voilà, en sachant ça, bah, c'est des choses qui vont vous permettre de vivre une grossesse plus épanouie. Voilà, je préfère voir le, ce côté-là dans ces découvertes que le côté, justement, fataliste.
Ouais, mais, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de fatalisme, ce que tu expliques quand même, c'est qu'il y a une immense importance de la petite enfance. J'aimerais bien que tu nous expliques d'abord ça, parce que la question que j'ai derrière, c'est le déterminisme. Mais, mais j'aimerais bien comprendre d'abord pourquoi la petite enfance, donc la petite enfance c'est 0-5 ans quoi, en gros, pourquoi c'est si important et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau de l'enfant ?
Eh bien, la petite enfance, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on a découvert qui nous a montré à quel point c'était important ? C'est surtout les recherches qui ont été faites sur les fenêtres d'opportunité. Et nous, en science, on appelle ça les périodes sensibles. Je te donne un exemple, et c'est ça qui a été un peu ce qui nous a permis de découvrir ça. Ça a été ces fameuses histoires de Victor de l'Aveyron, ces enfants qu'on a retrouvés dans des certains contextes où pendant un certain temps, ils n'ont pas été exposés ni au langage, ni à l'affection. Et on a vu que ces enfants, ils ne se développaient pas de la même manière. Et surtout que non seulement ils ne se développaient pas de la même manière, mais on n'arrivait pas à réverser certains troubles. Victor de l'Aveyron, par exemple, il a été retrouvé à 9-10 ans et puis finalement, cet enfant, malgré tout ce qu'on a fait comme effort pour l'aider à apprendre à parler, c'est un enfant qui n'a jamais réussi à avoir une syntaxe correcte. Alors, il y a toujours ce côté, est-ce qu'il a été abandonné parce que déjà, c'était un enfant qui présentait certaines choses ou pas. Mais